18-19, le magazine.
Polar, la plus rock de la bande FM.
Et pourquoi avons-nous changé ?
On a changé, mais que très provisoirement, de générique. Bon, en fait, si on le fait tous les deux fois, ça va finir par plus être si provisoire. Mais parce que c'était pour fêter l'anniversaire, les 70 ans de Keith Richards. Et il méritait bien, ce brave Keith, qu'on lui fasse, lui qui nous a tant fait de bien à nos oreilles. Ben, voilà, on est tellement content de l'écouter qu'on s'en remis un petit morceau, le riff de Jumping Jack Flash. Néanmoins, tu vas nous donner le générique. Le sommaire.
Le sommaire, c'est assez simple. On va sacrifier à la tradition avec quelques idées de cadeaux de Noël que vous pouvez encore aller chercher chez votre libraire favori. Des petites idées, des tarifs très raisonnables. Et puis ensuite, on parlera des romans qu'on a aimés ces deux derniers mois. Voilà, donc Jacques, c'est toi qui commences pour les idées de cadeaux de Noël.
Alors je commence pour les idées de cadeaux de Noël par un assez gros livre de Raymond Chandler. Ce sont les enquêtes de Philippe Marlowe qui sont réunies dans la collection Quarto de Gallimard. Donc un assez gros livre qui fait 1312 pages, pour tout savoir.
Mais le papier est très fin. Hein,
oui, c'est du papier fin, c'est le Wall Quarto. Donc voilà, effectivement, ouais. 28,50 €, mais bon, pour 1312 pages, ça fait quand même pas trop cher. Donc il y a les 7 romans. Donc les 7 enquêtes de Philippe Marlowe qui sont réunies en un seul volume. Donc un assez copieux volume que je vous conseille de déguster à petite dose pour en profiter plus longtemps. La première histoire, c'est le fameux Grand Sommeil qui date de 1939. La dernière, c'est Playback ou Charade pour écrouler, comme était son premier titre en français.
Quand même beaucoup plus sympa,
voilà,
je trouve.
Il date de 1958. Alors contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, les romans n'ont pas été retraduits comme l'ont été ceux de Dashiell Hammett. On en a parlé ici, d'ailleurs. Mm. En fait, la traduction a été simplement revisitée par Cyril Lomonier. Disons qu'on a un peu nettoyé l'argot un peu trop marqué, les quelques erreurs un peu flagrantes, et aussi surtout, on a quand même la version complète de tous les romans,
ce qui était quand même. Oui, puisque souvent il manquait quelques pages, voire des chapitres entiers.
Voilà. Alors les seuls qui n'ont pas été nettoyés, c'est les deux romans qui ont été traduits par Boris et Michel Vian, parce que Boris et Michel Vian,
on touche pas.
Voilà, c'est une institution, on touche pas. Et puis bon, finalement, bien que Boris Vian ait mis beaucoup de Boris Vian dans Chandler, ça garde, malgré les trahisons, ça garde quand même son charme. Donc voilà, c'est Boris Vian, on pourrait quand même pas... Ceci dit, j'aimerais bien le lire quand même une fois. La vraie version, même, de toute façon, c'est vrai que nous, on se contente de la traduction, donc on peut pas savoir ce qu'il y avait vraiment en anglais.
Ceci dit, on peut très bien imaginer... de commander le livre en anglais, hein.
Les deux traduits par Boris Vian sont le premier, Le Grand Sommeil, et un peu plus tard, La Dame du Lac, voilà. Donc, c'est un bon petit bijou quand même qui fait 1100 grammes, mine de rien, et que je vous recommande.
Tu présentes un gros format, moi c'est l'inverse. Moi je vais vous présenter deux petits recueils. Le premier, c'est un recueil qui s'appelle Femmes en colère. C'est un petit coffret. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle parce que vraiment, c'est un livre qui a pas eu bien sa place dans les librairies parce qu'il était difficilement présentable et c'est vraiment dommage. Un petit coffret original noir, bien sûr. Présentation très soignée. Un coffret cartonné que l'on déplie et dans lequel on peut extraire 4 courtes nouvelles, donc il y a 4 petits livres. L'une est de Dominique Sylvain, l'autre de Marcus Malt, Didier Deninck, et la dernière de Marc Villard, qui est aussi directeur de collection. C'est aux éditions In Octavo. Donc le coffret s'appelle Femmes en colère. Si le format m'a beaucoup plu, le thème ne peut que me réjouir. Des femmes qui en ont marre de courber les chines en Guyane, en Espagne, en France, même jusqu'à Bangkok. Des femmes qui redressent la tête et qui vont faire un acte de bravoure. Je dirais contre tous et à contre-courant. Et puis, vous avez quand même la crème des écrivains français. Et ça vaut le coup de les lire sur 10 pages, 50 ou 350. vraiment là d'excellents petits textes. Autre recueil de nouvelles, totalement différent. Et celui-là, je dirais qu'il est spécialement fait pour Noël. C'est chez Rouge Chaffran, l'éditeur Rouge Chaffran. La collection, c'est Colombo. Ça s'appelle « Bonne fête, vos 13 desserts littéraires ». 13 nouvelles pour Noël 2013. En fait, il y en a 14. Hein. Mais j'ai toujours dit, les littéraires, ils savent même pas compter. 14 histoires, donc, qui se passent toutes autour de la dinde, du gui, des étrennes et du traîneau. Des petites histoires à lire dans le désordre ou dans l'ordre. Des histoires sérieuses, pas très sérieuses, noires, drôles. Pas mal d'auteurs de polar, d'ailleurs. Il y a par exemple Sergueï Dounovets qui nous présente le destin pas très drôle du chat pirate. Il y a Jean-Hugo Pell qui nous parle d'un réalisateur de films porno. Accrochez-vous, le réalisateur, son pseudo, c'est Léo Brakmar. Et puis tant qu'à faire, deux autres jeux de mots. Avant de filmer ce qui devrait passer pour les fêtes sur une chaîne câblée, il a signé deux films pour le bicentenaire de la Révolution française. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire les titres. Donc le premier, c'est « Vive l'arrêt public ». Et le deuxième, encore mieux, « Robe, baise, pierre ». Voilà. Donc, il y a aussi une nouvelle de François Tomaso.
Mais rassurez-vous, c'est à mettre quand même entre toutes les mains. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Donc François Tomaso avec une nouvelle qui, elle, est très, très noire et très jolie, très sensible. Le prix, vous allez le deviner. 13 euros, évidemment. Voilà, avec une jolie couverture.
Ça s'appelle les 13 desserts. On rappelle que même si on n'est pas tout à fait en Provence, les 13 desserts, c'est quand même une tradition provençale. Donc, on peut rajouter ce recueil dans les paquets.
Tout à fait. Voilà, puis même sur l'assiette, ça fait très joli. Hein, joli nœud, des petites étoiles rouges, jaunes, dorées. C'est mignon. Voilà, bonne fête, vos 13 desserts littéraires chez Rouge Chaffran. À toi, Jacques.
Alors, moi, je reparle encore d'un assez gros livre. Ça s'appelle « Dallas, une journée particulière » de Patrick Jeudy et Christian Demeter. C'est sous-titré « 22 novembre 1963, vu par Jackie Kennedy ». Et vous avez peut-être vu sur Arte l'excellent documentaire du même Patrick Jeudy, qui est un documentaire sur cette journée-là. Et là, c'est un peu la mise en image...
Mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là?
Si vous ne le savez pas, vous le découvrirez. C'est un peu la mise en image de cette journée. Alors, c'est pas vraiment une BD. En fait, c'est même pas du tout une BD. C'est un beau livre au format carré. Ça fait 29 par 29. C'est quasiment la taille d'un de nos vieux vinyles. Le récit commence à 8h30 le 22 et ça s'arrête à 3h45 le 23. Le récit est illustré de photos d'époque, dont certaines, plutôt rares, d'autres qu'on a déjà pas mal vues, et de dessins, plutôt même de peintures de Christian Demeter. Si vous avez aimé l'adaptation du roman Shutter Island dans la collection Casterman Rivage de Christian Demeter, qui est toujours disponible, je le signale, ça fait un autre cadeau, vous retrouvez ici tout son talent et assez bizarrement l'ambiance assez proche. Peut-être parce que à cause du côté irréel de ce fait divers dont on y croyait, moi ça paraissait tellement.
Je rappelle, Kennedy est toujours mort. Hein.
Oui, non, mais ça paraissait tellement irréel qu'on tue le président comme ça. Et maintenant, bon, évidemment, c'est devenu le phénomène que l'on sait, donc c'est complètement différent. C'est vraiment c'est vraiment magnifique. Les peintures, les dessins de Demeter sont vraiment très très beaux. C'est beau malgré le sujet. La mise en page et la qualité de reproduction et du papier. Alors là, c'est pas du papier bib comme je parlais tout à l'heure. C'est vraiment du très beau papier avec des très très belles repros. Si vous aimez JFK ou si vous avez quelqu'un qui aime Jackie dans votre entourage, c'est le cadeau idéal.
Voilà. Et moi, j'ai trouvé parmi les rééditions récentes deux cadeaux pas chers, donc à moins de 10 euros. Le premier, c'est Le Dernier Lapon. Le Dernier Lapon, c'est un roman écrit qui est sorti en 2012, je crois, par Olivier Truc. Et c'est certainement l'auteur de polar le plus couronné cette année. Prix Quai du Polar, prix Mystère de la Critique, un prix à l'Emballe, voire deux prix à Vienne. Je ne me souviens plus.
Deux
prix à Vienne. Et enfin, très récemment, le trophée 813 du meilleur roman francophone. Et puis, offrir un roman qui se passe en Laponie pour Noël, c'est quand même l'idéal.
Il y a déjà des rennes, hein, donc.
Voilà. Il fait nuit noire en Laponie, c'est l'hiver polaire. Vous allez découvrir la culture Sami, qui est quand même le dernier peuple aborigène européen. Et puis la police des rennes. Alors, il y a peut-être le petit renne au nez rouge parmi ceux-là. Et oui, les rennes sans papier passent constamment les frontières. Et donc, ils ont leur police. On vous racontera pas tout, puisque de toute façon, Jacques, tu en avais fait une chronique l'année passée.
Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur le site de Ondenoir, ondenoir.com, dans la saison 13.
Voilà, et ce que j'avais peut-être oublié de dire, c'est que la réédition, c'est chez Poinceuil. Enfin, avant d'écouter un petit peu de musique, je voudrais vous parler d'un des plus grands auteurs de romans noirs du XXe siècle, c'est l'Américain Jim Thompson. Rivage Noir fait un magnifique travail à la fois d'édition et de réédition de tous les romans de Jim Thompson, avec là des retraductions complètes. Là, je vous propose Une femme d'enfer, c'est retraduit par Daniel Bondil. En gros, l'histoire d'un vendeur, alors c'est un livre qui date, hein, c'est le milieu du XXe siècle, l'histoire d'un vendeur qui fait du porte-à-porte et qui va disjoncter pour différentes raisons, mais en particulier pour Mona, mi-pute, mi-ange. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le roman de Jim Thompson, mais vous avez déjà sûrement vu le film où Patrick Devers est exceptionnel. Ce film, c'est Série Noire d'Alain Corneau. Il avait retransposé cette histoire américaine en France, parisienne. Et c'était vraiment une très très belle transposition. Si vous connaissez ni l'un ni l'autre, eh ben faites un coffret cadeau avec le roman et le DVD. N'hésitez pas. Là, on est carrément dans le chef-d'œuvre et pour l'un et pour l'autre. Mona, la jeune femme mi-pute mi-ange, c'était Marie Trintignant. Voilà. Je voulais le signaler. On va peut-être écouter un petit peu de musique.
Eh ben, une petite musique de Noël, un peu bizarre, qui pourra peut-être penser au texte dont tu parlais tout à l'heure de Jean-Hugo Pell. C'est un chanteur qui s'appelle Legendary Tigerman. En fait, son vrai nom, c'est Paulo Furtado. Il est
bon pseudo quand même.
Voilà, il est portugais et en fait, il fait du blues tout seul avec sa guitare et un drum kit et une harmonica. Et le morceau s'appelle Fuck Christmas, I've Got the Blues. Je ne traduirai pas. Les textes sont assez explicites.
Yeah, 25th of December, 1971. Got me some homemade beautiful shoes. 11 years later, baby, 1982. I was 12 years old and still I had the blues. Fallen free, baby, now I'm fairly free. I'm expecting some good jazz, baby, hanging on that tree.
Fuck Christmas, baby. Yeah, I got the blues. Fuck Christmas, baby. Yeah, I got the blues. I say, fuck Christmas, baby. Tree on the red light, Juliet. Fucking Romeo won't be back for supper.
Pour le plaisir, tu vas nous reciter le titre de ce morceau.
Donc, le chanteur s'appelle Legendary Tigerman et le morceau Fuck Christmas, I've Got the Blues.
Voilà. Eh bien, d'autres qui ont le blues, c'est les personnages du roman dont je vais vous parler maintenant. Un roman de Giacchino. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je n'ai jamais su prononcer l'italien. Criaco.
Gioacchino, comme Joachim.
Joachim Criaco. Pardon. C'est traduit de l'italien, donc vous aurez compris que c'est un auteur italien. Traduit de l'italien par Serge Cadrupani. Le titre en italien, c'est American Taste. Le titre en français est resté. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que American Taste, c'est le nom du consortium international qu'a construit, utilisant tous les moyens légaux et plutôt illégaux, Bobby Biren, qui est un ex-général de l'armée américaine. Cette carrière à l'armée ne lui a d'ailleurs donné ni le sens de la morale, ni même une honnêteté quelconque. En gros, vous commencez par gagner quelques milliards de dollars en vous adonnant au trafic de drogue, puis vous blanchissez cet argent en rachetant des sociétés. Pour les racheter, de nombreuses combines s'offrent à vous. Soit vous ruinez un petit chef d'entreprise, vous lui rachetez à bas coût. Vous pouvez aussi suicider des propriétaires d'entreprises de luxe. Apparemment, Biren, il aime bien la haute couture. Et au début de ce roman, Jérémy, son fils adoptif et en même temps son âme damnée, vient de trucider le cinquième, c'est-à-dire le cinquième propriétaire de haute couture. Et évidemment, il a maquillé le meurtre en suicide. Bref, en gros, Bobby Biren, vous l'aurez compris, c'est un salaud intégral. Kriako, là, ne fait pas dans la dentelle avec lui. Il va réserver les nuances et les subtilités pour ses ennemis. Et ses ennemis, il y en a beaucoup. Certes, il a des âmes damnées, comme j'en parlais tout à l'heure, mais il a aussi beaucoup d'ennemis, dont cinq qui viennent de s'évader de Fresnes, la prison. Le premier, c'est Mr. B, Benjamin. Alors lui, c'est un ex-pilote d'hélicoptère, ex-commando, ex-trafiquant de drogue, d'ailleurs pour le compte de Biren. Évidemment, Biren l'a trahi. Le deuxième qui s'est évadé, son prénom c'est Pierre. Pierre, il a un grand-père qui s'appelle Gino, qui est un peu mafieux, un peu beaucoup, avec son ami Pasquale, en Calabre. Et je cite l'auteur, « Ils avaient régné et exercé longtemps leur petit pouvoir, de manière impitoyable et sans épargner la douleur. Ils ne se sentaient pas des anges du bien. Ils savaient même qu'ils étaient irrémédiablement des âmes noires. Et ces âmes noires ont encore quelques comptes à régler avec Biren. Il y a aussi Kismi, l'autonomiste basque, Hakim, le druze. Cinq hommes en fuite qui n'ont qu'un objectif, détruire Bobby Biren, et ses sbires, qu'ils détestent tous, et tous pour d'excellentes raisons. Dans ce monde de trafiquants et de la haute finance, tous les coups sont permis. Et je peux vous assurer que dans la deuxième partie du roman, les cadavres vont se compter par dizaines. Cadavres d'ailleurs qui vont être soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que l'écrivain italien va nous raconter non seulement les destins des principaux protagonistes dont je viens de parler, mais aussi les histoires individuelles et collectives de nombreux autres. Et tout ça en moins de 200 pages. Il nous balade de l'univers carcéral de Fresnes, très noir, très sombre, à la beauté âpre, sauvage, de l'Aspromonte. C'est une colline, une petite montagne de la région de Calabre. Il va partir du milieu des narcotrafiquants colombiens et on va arriver jusqu'à la lumière crue qui illumine quelques maisons délabrées d'un petit village de Crète. Ces personnages, ils ressemblent au paysage. Ils sont tour à tour sombres, sans pitié, sauvages, mais souvent illuminés de sentiments qui les rattachent, chacun d'entre eux, quelque part, à une part d'humanité. Kriako, il va juste à l'essentiel. La douleur, les trahisons, les exils, et puis quelque chose de très important pour lui, la terre, surtout dans ce coin de Calabre. Et on a les évadés de Fresnes, et là, pour terminer cette chronique, je vais citer encore une fois cet auteur italien. Des âmes perdues dans le monde, avec trop de ponts coupés derrière elles pour revenir en arrière. Des gens condamnés à se chercher un alibi pour survivre. Un alibi qui, au final, revenait à identifier un ennemi assez pourri pour justifier l'obsession de l'anéantir. Vous l'avez compris, leur ennemi, ce sera Biren et son American Taste. J'ai cité le nom du traducteur, Kadrupani, j'ai cité le nom de l'auteur, Gioacchino Kriako, mais j'ai pas cité le nom de l'éditeur, les éditions, c'est Métayer, c'est dans la collection Métallier Noir. Je précise d'ailleurs que Serge Kadrupani, c'est le directeur des suites italiennes et c'est le découvreur de beaucoup, beaucoup d'auteurs italiens que nous n'aurions pas lus sans lui.
On est rarement déçus, il faut bien dire.
Ouais, c'est un excellent roman. Il avait déjà d'ailleurs fait un précédent qui s'appelait Les âmes noires. Voilà, on se retrouve en deuxième partie.
Après les infos.